Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. La génération post-Columbine défie Donald Trump 4 jours après le massacre de Parkland. Honte à vous qui avez touché une fortune de la part de la National Rifle Association, lance une jeune femme hier soir lors d'un rassemblement en Floride. Précision dans un instant d'Eva Jednak. Bombardement de blindés israéliens sur Gaza pour une explosion avant-hier qui a visé et grièvement blessé des soldats de Tsahal. Les leaders des deux camps ont-ils intérêt à ce que la situation tourne à la guerre ouverte? Marine Vlaovic nous appelle de Ramallah. Les Patriotes de Florian Philippot, mouvement qui tient son congrès fondateur aujourd'hui à Arras dans le Pas-de-Calais. Et puis au sommaire de la face cachée du globe, signé ce dimanche Nabila Hamel, l'Irlande du Nord et le Zimbabwe. Bombardement nourri sur des sites gazaouis en guise de riposte, une explosion au cours de laquelle 4 soldats israéliens ont été blessés. Le calme est revenu sur la bande de Gaza et les corps de 2 jeunes hommes de 17 ans ont été sortis des décombres. Après les frappes, les mots et les menaces, hier soir, Benjamin Netanyahou promettait une réponse qualifiée d'appropriée à ces actes de guerre. Le Hamas a accusé Israël d'avoir planifier ces frappes pour, je cite, mener à une escalade. Est-ce là le prélude à un enchaînement de violences qui viendrait renforcer les appuis politiques des uns et des autres? Marine Vlaovic nous appelle de Ramallah.
Une situation inquiétante car chacune des deux parties en proie à des difficultés internes pourrait être tentée de faire diversion tout en se tenant mutuellement responsable d'une éventuelle escalade. D'abord Benjamin Netanyahou qui a dénoncé hier un incident grave après l'explosion d'un engin piégé à la frontière avec la bande de Gaza. Le premier ministre israélien empêtré dans des affaires de corruption pourrait être inculpé prochainement et est sur la sellette. Reste à voir de quelle manière l'État hébreu répliquera donc à une nouvelle attaque. Même si, selon des sources palestiniennes, le Hamas a déjà contacté son voisin égyptien pour faire savoir à Israël qu'il n'a aucun intérêt à ce que la situation dégénère, officiellement, il désigne l'État hébreu comme responsable du regain de tension de la nuit dernière. Car de son côté, le mouvement islamiste est sous pression. Depuis quelques semaines, on craint une explosion dans une bande de Gaza exsangue qui traverse une crise énergétique et humanitaire sans précédent. Et le processus de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, qui devait justement donner une bouffée d'air frais à l'enclave soumise au blocus israélien, eh bien ce processus est dans l'impasse. Gaza est au bord de la catastrophe et tous les indicateurs sont au rouge, s'alarment les observateurs.
Et ce dimanche, la police a arrêté plusieurs cadres supérieurs de Bezeq, la plus grande entreprise israélienne de télécommunications. Ce nouveau versant de l'enquête pour fraude s'oriente vers des soupçons d'avantages perçus par Bezeq en échange d'une couverture favorable de la politique du Premier ministre. Voilà de nouvelles fausses accusations contre Benjamin Netanyahou. Réaction ce matin du porte-parole de son cabinet. Un avion de ligne iranien s'écrase dans une région montagneuse du sud-ouest du pays. Aucun survivant, 66 morts. Le tweet de la nuit de Donald Trump appartient à ses ficelles, à ses basses œuvres politiques. Le président américain éreinte le FBI qui, je cite, passerait trop de temps à prouver la collusion russe avec sa campagne au lieu de protéger des lycéens. Il est vrai que la police américaine a reconnu des failles et des manques, alertée qu'elle avait été de la dangerosité de celui qui a tué 17 élèves d'un lycée de Floride. 4 jours après le drame, les voix des survivants à cette nouvelle tuerie de masse claquent. Hier soir, lors d'un rassemblement à Fort Lauderdale, une lycéenne a éreinté, elle, le cynisme de Donald Trump. Bonjour Eva Jednak.
Bonjour.
Eva, vous avez suivi cette prise de parole, c'est celle de toute une génération.
Oui, face à une foule de camarades, Emma Gonzalez, 18 ans, essuie quelques larmes, mais sa voix ne faiblit pas. D'abord, elle s'adresse à ceux qui insistent sur les problèmes mentaux du tueur, qui leur reprochent de ne pas l'avoir signalé aux autorités.
We did, time and time again.
Nous l'avons fait à plusieurs reprises depuis l'école primaire. Personne n'a été étonné d'apprendre que c'était lui le tireur. Ce n'est pas qu'un problème de santé mentale. Il n'aurait pas fait autant de victimes avec un couteau.
Puis elle interpelle directement le président américain Donald Trump.
Si le président vient me voir et qu'il me dit en face que c'est une terrible tragédie, que ça n'aurait jamais dû se passer, je lui demanderai combien il a touché de la NRA. Je le sais, 30 millions de dollars. Et divisé par le nombre de victimes de coups de feu aux États-Unis depuis le début de l'année 2018 seulement, cela s'élève à 5 800 $. Est-ce que c'est ce que ces gens valent pour toi, Trump?
Ces mots, ce sont ceux d'une génération. Dans la presse américaine, on parle de génération post-Columbine, en référence à ce lycée où 12 élèves et un professeur sont morts, tués en 1999. Ce sont les mots de ceux nés après cette tuerie devenue symbole, ceux qui ont intégré le fait qu'un de leurs camarades puisse arriver un matin, un fusil d'assaut entre les mains. Vous êtes les adultes, agissez pour plus de contrôle sur les armes à feu, implore-t-il. Mais leurs mots se heurtent à la puissance du lobby des armes et aux défenseurs du Second Amendement. Hier, seulement deux jours après la tuerie de Parkland, à une soixantaine de kilomètres de là, une foire aux armes géantes avait lieu, maintenue malgré les appels à l'annulation.
Merci à vous, Eva Jennac. Le ton monte encore une fois entre Caracas et Bogota. Le président vénézuélien Nicolas Maduro accuse l'armée colombienne de préparer, sous influence des États-Unis, des provocations militaires. Caracas soupçonne même le régime colombien d'ingérence lourde qui conduirait Bogota à entraîner secrètement des citoyens vénézuéliens afin de précipiter la guerre. Alors, quoi de mieux que de plastronner et d'annoncer des manœuvres militaires, air, terre, mer, de les programmer les 24 et 25 février prochains. Il s'agit là de, je cite, « renforcer l'âme nationale » et Noé Pignède de sauver le soldat Maduro.
Et oui Mathieu, si le président vénézuélien organise cette démonstration de force, à laquelle participeront des militaires, mais aussi des civils, c'est qu'il est en grande difficulté à deux mois des élections. Alors il ressort une bonne vieille recette politique vénézuélienne, fédérer le pays autour de l'ennemi historique américain. Il accuse la Colombie d'être une marionnette du Pentagone qui agirait dans l'ombre pour faire tomber son régime. Nicolas Maduro affirme détenir la preuve de ce grand complot, un complot qui viserait à déclencher un conflit armé donc pour empêcher la tenue de l'élection du 22 avril à laquelle il est candidat. L'opposition au régime chaviste dénonce la manœuvre et dit craindre que le président ne se maintienne par la fraude. Elle hésite même à boycotter le scrutin. Il faut dire que les autorités électorales sont largement favorables à Nicolas Maduro.
Et Noé, plusieurs pays, dont l'Argentine et la Colombie, ont déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas l'élection.
Oui, le président colombien Juan Manuel Santos qualifie même son homologue vénézuélien de dictateur. Et même si Maduro bénéficie du soutien des institutions et de l'armée, il est lâché par sa base. Selon les derniers sondages, 70% de la population souhaite son départ. Le peuple vénézuélien n'en peut plus. À Caracas, on manque de tout, nourriture, médicaments et même papier toilette. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Selon le Fonds monétaire international, l'inflation devrait atteindre 13 000% cette année.
Noé Pignède. La politique française, avec un en avant pour un nouveau front de Marine Le Pen, qui a ainsi baptisé son déplacement aujourd'hui à Laon, et non loin de Laon, une première pierre dans le jardin du Front National avec la tenue aujourd'hui du congrès fondateur du Parti des Patriotes Formation, présidé par Florian Philippot. Quelles sont les ambitions de l'ex-numéro 2 du FN? Dans quel espace politique compte-t-il implanter son parti? Aurélien Colli lui a posé la question. Florian Philippot.
Je pars d'une idée simple, c'est que le patriotisme est très vraisemblablement majoritaire en France. C'est-à-dire l'amour de la France, l'idée que la France doit exister, qu'elle doit être libre, qu'elle doit être juste, qu'elle doit être prospère. Mais il ne parvient jamais au pouvoir, probablement parce qu'il manque de crédibilité. Et donc la ligne des patriotes, c'est un patriotisme moderne, un patriotisme crédible. Vous savez ce que disait le général de Gaulle? Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Moi, j'ai nommé mon mouvement les patriotes, et je ne l'ai pas nommé les nationalistes.
Aujourd'hui, l'un de vos combats à venir, c'est le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne.
Il n'y a pas de politique possible si la France est dans l'Union européenne. Et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que la liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas de démocratie. Sans souveraineté, sans indépendance nationale, il n'y a pas de démocratie. Et s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'autre politique possible.
Le Frexit, une majorité de Français, aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, n'en veut pas?
Oui, c'est vrai, selon les sondages actuels, il y a à peu près un tiers des Français seulement qui veulent quitter l'Union européenne. Moi, je n'adapte pas mes convictions au sondage du jour. Je pense qu'on doit sortir de l'Union européenne de manière impérative pour mener une politique différente en tout point et protéger les Français. Et donc, j'essaie de convaincre en ce sens. En tout cas, les patriotes qui n'ont que 4 mois et demi d'existence se sont donnés pour mission de convaincre les Français. Le Front National est devenu un cul-de-sac aujourd'hui.
Florian Philippot avec Aurélien Colli. Il est 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe qui vous emmène ce dimanche au Zimbabwe et en Irlande du Nord. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Les ministres de la Défense de l'OTAN ont dit oui à une mission élargie d'entraînement et de conseil des forces armées irakiennes pour les former aux opérations de déminage. Ce sont les États-Unis qui ont pesé de tout leur poids pour la mise en place d'une telle structure.
Les autres membres de l'OTAN étaient plutôt échaudés par l'exemple afghan. Une visite assez rare d'un ministre arabe à Jérusalem, le chef de la diplomatie omanaise Youssef Ben Alaoui, s'est rendu jeudi sur l'esplanade des mosquées. Oman et Israël n'ont pas de relations diplomatiques, mais une telle visite se fait généralement en coordination avec les autorités israéliennes. Il était le visage du mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe. Morgan Tsvangirai est mort mercredi. Son opposition à l'autocrate Robert Mugabe lui a valu des procès et des séjours en prison. Il est vrai qu'il avait réussi en 2008 à arriver en tête du premier tour de la présidentielle, mais avait dû se retirer après la vague de répression qui a visé les militants de son parti. La disparition de Morgan Tsvangirai a révélé au grand jour des divisions et une bataille pour la succession à la tête du MDC. Pierre Boisselet, vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Le principal parti d'opposition zimbabwéen ne paraît donc pas pour le moment en ordre de bataille pour gagner les élections de juillet prochain.
Ce sera très difficile pour le MDC de se constituer comme une alternative crédible d'ici les élections qui sont prévues, il faut rappeler, avant le mois de juillet. Donc ça leur laisse très peu de temps pour se réorganiser d'ici là. Ensuite, il faut voir à plus long terme, après les élections, comment petit à petit le MDC peut se reconstruire. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces dernières années, il y a eu plusieurs scissions au sein du parti et que ces derniers mois, on observait un retour des anciens membres de la MDC vers la maison mère. Donc peut-être que ce processus peut se poursuivre et à terme redonner un parti puissant en mesure de contester le pouvoir. Mais d'ici juillet, ce sera très difficile.
En clair, le successeur de Mugabe, Emmerson Mnangagwa, ne semble donc pas menacé par l'opposition.
Là, il est encore auréolé du fait d'avoir poussé vers la sortie l'ancien vieux dictateur Robert Mugabe, qui était exécré par beaucoup de Zimbabwéens. Donc il jouit de ce crédit-là, il jouit de la nouveauté. Il a fait un certain nombre de promesses en termes de démocratisation après son arrivée au pouvoir. Donc pour l'instant, il est très clairement en position de force et il y a toutes les chances de penser qu'il puisse gagner à la loyale les prochaines élections.
Le mouvement pour le changement démocratique a-t-il raté l'occasion de capitaliser sur le fait que le départ de Mugabe ne signifie pas pour autant la fin du tout-puissant système du parti au pouvoir, la ZANU-PF?
Il y a une grande ironie en fait à la situation actuelle puisque le MDC et Morgan Tsvangirai se sont battus pendant des décennies contre Robert Mugabe et finalement il ne profite pas de sa chute. Quand Robert Mugabe est tombé, en fait, Morgan Tsvangirai était déjà extrêmement affaibli par sa maladie et il n'était absolument pas en mesure de profiter de ce mouvement-là. Donc même si la ZANU-PF reste en place, le fait d'avoir un nouveau président pour les Zimbabwéens, ça reste un événement absolument historique. Et donc, effectivement, le MDC n'a pas pu profiter de cette nouvelle situation.
Merci à vous, Pierre Boisselet. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Les deux principaux partis nord-irlandais ont annoncé cette semaine l'échec de leurs négociations pour former à nouveau un gouvernement. Plus de 13 mois après le début d'une crise politique, le pays n'a donc toujours pas d'exécutif en place. Le gouvernement britannique doit annoncer ses intentions mardi et il est difficile pour l'instant d'imaginer un retour au dialogue. C'est une correspondance de Julien Lagache.
L'échec des négociations est d'autant plus étonnant que quelques jours ont suffi pour passer d'une perspective de sortie de crise au retour à une impasse totale. Après cette ultime tentative ratée de conciliation, le parti unioniste démocrate a demandé au gouvernement britannique de se substituer à l'Assemblée de Belfast pour voter un budget et prendre rapidement des décisions en matière d'éducation et de santé notamment. Toutefois, cette administration directe par le biais de Westminster n'est pas du goût des nations du Sinn Féin, ni forcément de Londres qui a dû intervenir ponctuellement entre-temps dans les affaires de Belfast, mais qui a jusqu'ici toujours privilégié les négociations en espérant qu'un exécutif régional soit reformé. Et convoquer de nouvelles élections semble écarté car de l'avis général, un troisième scrutin en 3 ans ne changerait rien. Ne reste donc que les pourparlers qui butent depuis plus d'un an sur des sujets symboliques et donc hautement inflammables en Irlande du Nord, en particulier une loi de protection de la langue irlandaise réclamée par le Sinn Féin, mais considérée par la communauté unioniste comme une concession trop importante aux indépendantistes. Or, impossible de dire s'il existe une base solide pour relancer le dialogue, car le contenu et les avancées des négociations n'ont jamais été rendus publics en 13 mois afin d'éviter de fragiliser un accord éventuel.
Le conseil municipal de Sarajevo a renoncé cette semaine à faire citoyen d'honneur Orhan Pamuk, l'écrivain turc le plus lu au monde et prix Nobel de littérature en 2006. L'opposition formée par le Parti socialiste démocrate a dénoncé, je cite, « un comportement de vassal et une décision commandée par la peur de s'aliéner le président turc Recep Tayyip Erdogan ». À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Bel, la face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo de l'après-midi, de belles éclaircies, à l'exception du massif central et des Alpes où la grisaille persistera. Maximale, les températures comprises entre 3 et 8 degrés en général, entre 8 et 10 degrés près de l'océan. Édition préparée avec Martin Descloseaux.